Dès l'âge de 20 ans, Daniel Lange entre dans un groupe monastique. Et ce groupe monastique, implanté au Rwanda, l'invite à aller dans ce pays où il passe de nombreuses années. Il revient ensuite en Occident et, il y a quelques mois à peine, à l'âge de 49 ans, il est ordonné prêtre. Daniel Ange, pourquoi avoir choisi de devenir prêtre ?
J'ai longuement hésité à accepter le sacerdoce parce que ce n'était pas exigé par ma vocation de moine qui me rendait vraiment heureux de Dieu, content de Dieu dans cette vie de louange tout à fait gratuite. Mais ce qui m'a poussé à accepter l'appel de l'Église, parce que c'est mon évêque qui m'a proposé de devenir prêtre il y a quelques mois, c'est justement toute cette détresse à laquelle je suis envoyé depuis un an ou deux dont je vous parlais, dans ces prisons, ces hôpitaux. Et une des choses justement qui m'a tellement frappé, c'est ce que je disais à propos du pardon, tellement difficile à donner tant qu'un être n'a pas été lui-même pardonné. Et j'étais témoin de, j'oserais dire, de résurrection intérieure obtenue simplement lorsque quelqu'un peut s'entendre dire « Au nom de Dieu, et moi je te pardonne ». Et que c'est vraiment comme la dynamite hein, qui vient faire voler en éclats un rocher qui écrase quelqu'un. Un rocher qui est là sur ses épaules, qui n'arrive pas à porter un fardeau trop lourd. Et c'est pour opérer ces libérations du cœur, si je puis dire, que j'ai accepté ce ministère de prêtre. Et aussi, bien sûr, pour l'Eucharistie. Hein. C'est une chose absolument bouleversante de pouvoir non seulement rassembler des personnes de tout horizon, de tout milieu social autour du corps de Dieu, mais j'ai été témoin de tellement de guérisons, même de guérisons physiques obtenues par l'Eucharistie, que quand je vais dans des endroits où il n'y a aucun prêtre, où jamais les prêtres ne mettent les pieds, que je puisse apporter ce feu qui est là, ce feu de l'amour qui est là, caché dans le corps même de Jésus, oui, dans son sang qui guérit les malades. Et c'est pourquoi je célèbre toujours maintenant en demandant à ce qu'au moment de la communion, il y ait un temps de prière sur les malades, comme ça se faisait toujours dans les liturgies primitives. Et il y a souvent des guérisons. Et je demande beaucoup aussi à des enfants, des petits-enfants, de prier sur les malades, parce que le Seigneur a un faible et il n'arrive pas à résister, j'oserais dire. Il doit céder à la prière d'un petit enfant. Alors, ça m'est arrivé il y a quelques mois, le jour de Pâques, dans une petite paroisse du sud de la France. J'avais fait demander que tous les handicapés physiques et mentaux soient autour de l'autel ce jour-là. Sinon, je ne venais pas. Et aussi que ce soit plein d'enfants. Alors, ça avait été annoncé dans la paroisse. J'arrive. Au moment de la communion, il y avait déjà une heure de passé. Et les gens qui n'étaient là que pour une fois par an commençaient à sortir. Alors, j'aurais demandé, faites un cadeau de Pâques à Dieu. Et vous allez maintenant... Et je me suis tourné vers les enfants et j'ai dit, c'est vous qui allez prier sur vos malades, au nom de toute la paroisse, au nom de tous. Et les enfants ont été absolument bouleversés par cela. Ils ont commencé une prière d'une intensité, d'une profondeur qui a bouleversé toute la paroisse. Personne n'est sorti pendant 2 heures d'affilée, alors qu'ils étaient venus une fois par an à l'église. Et toute la paroisse a été renouvelée à partir de ce petit fait-là. Vous voyez que quand on retrouve vraiment... Cette sorte de prédilection justement pour celui qui souffre, pour le malade, pour le blessé, et qu'il est le premier invité, qu'il a la première place à l'Eucharistie. Et ça, je peux le faire parce que maintenant je suis prêtre.
Oui. Mais le fait d'être prêtre, voilà, ne pourrait-il pas aussi être un obstacle au travail que vous voulez faire pendant un certain nombre d'années? Vous avez fait un travail.
Voilà. Oui.
Et vous n'aviez pas besoin d'être prêtre. Vous n'avez pas eu besoin d'être prêtre pour aller avant ça dans les prisons, pour pardonner, etc. Voilà. Et le fait d'être prêtre maintenant, ne risque-t-il pas justement que l'on vous identifie à cette caste des fonctionnaires dont vous parlez?
Exactement. Vous-même. Et c'est un risque que j'ai pris, un risque que je prends. Mais d'habitude, je ne m'affiche pas comme prêtre, je ne m'annonce pas comme prêtre, je m'annonce comme moine, tout simplement. Bon, et on m'invite comme moine, et puis en fait, ils s'aperçoivent que je suis prêtre, mais ils voient que c'est quelquefois... C'est un peu un autre style que le bureaucrate, vous voyez. Alors donc, je dirais, de ce côté-là, c'est il n'y a pas de problème, je crois. Et puis, à côté de cette espèce de bonheur en crescendo qui a d'être prêtre, où chaque jour, on se met à habiter davantage ce mystère de l'Eucharistie, qui touche tellement, rien que pouvoir célébrer, bien célébrer. C'est une chose qui heurte tant de chrétiens, c'est les messes bâclées, maldites à toute vitesse. Comment voulez-vous que c'est un retentissement? Vous voyez, c'est effrayant. Je vois à Paris, une des églises les plus pleines, qui est remplie le dimanche, c'est là où la messe est la plus longue. Pas parce qu'elle est plus longue, mais parce qu'elle est plus belle. Elle dure 2 heures, 3 heures, et c'est plein à craquer à Saint-Gervais, parce qu'elle est bien célébrée. Oui, le sens du geste, la beauté, se laisser prendre par ce qu'on fait. Et là, ça impressionne. Je dirais que c'est une prédication, une annonce qui va bien au-delà de la parole, qui porte bien au-delà de la parole. Oui. Mais alors, je parle de la parole, oui. Et je voudrais justement dire à propos de la parole, dans un monde où on est tellement pris par l'obsession du rendement, du quantitatif, la parole qui est cette sorte de nourriture gratuitement donnée par Dieu, et qu'on gaspille comme ça. Quand je pense que dans les pays de l'Est, mais on ferait n'importe quoi pour se procurer une Bible, on ferait 800 km pour avoir une petite Bible qu'on aurait à prix d'or, et quand on ne peut pas l'avoir, on va dans des conférences d'athéisme, parce qu'au moins on y entend de temps en temps citer l'Évangile, et vite on se dépêche d'apprendre par cœur. J'ai connu une personne qui avait fait des années en prison en Roumanie, et qui m'a dit que quand elle a été arrêtée par la police pour ne pas que sa Bible soit profanée, comme elle ne savait pas qu'elle la gardait avec elle, elle l'a avalée, elle a mangé la parole.
Mais d'où vous vient justement cet intérêt très grand que vous portez à tout ce qui est oriental? Je l'ai remarqué en particulier dans votre bouquin « Ton nom de Braise ». Ton nom de Braise, n'est-ce pas? Vous citez beaucoup, d'abord des pères de l'Église grecque.
Bien, c'est ça.
Et vous faites appel beaucoup à l'expérience des chrétiens vivant dans les pays de l'Est.
Eh bien, justement, je suis très frappé de ce qu'en Orient, la liturgie, la spiritualité orientale est une sorte de plénitude humaine, où il n'y a pas cette espèce de divorce qu'il y a en Occident entre la tête et le cœur. Ce qui est un drame, d'ailleurs, dans une formation de clercs, qui en Occident a été, toutes ces dernières années, beaucoup, beaucoup trop axé sur une formation uniquement intellectuelle, ce qui vient qu'on fabrique, j'oserais dire, des schizophrènes spirituels, des hyper-intellectuels au cœur atrophié, et qui ont un langage, qui ont un style qui les coupe du monde des pauvres. L'autre jour, j'étais avec des gitans qui me disaient, nous, on préfère aller chez les pentecôtistes parce qu'on ne comprend pas un mot à ce que disent vos prêtres. Vous voyez, on a tout un jargon, on a tout un vocabulaire, tout un style, et de fait, même notre liturgie est terriblement desséchée, terriblement vide au point de vue symbole, au point de vue signe. La liturgie orientale prend l'être tout entier avec son imagination, avec le sens de la vision, de la beauté, des icônes, avec le cœur. Il y a toute cette partie très affective.
J'avais exactement ce mot-là en tête, n'est-ce pas? Voilà. Votre christianisme, en fait, c'est le christianisme qui parle au cœur. C'est le Dieu qui parle au cœur.
Qui parle au cœur. Et tant qu'on refoule en méprisant comme du sentimentalisme tout ce qui est affectif dans notre relation avec Dieu, mais c'est atroce parce qu'on fabrique des cerveaux.
Oui, mais
vous voyez ce que je veux dire. Je suis un peu dur.
Je veux bien, mais je suis obligé de prendre la contrepartie, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas un danger justement à ce moment-là d'un christianisme qui soit trop sentimental et qui n'est pas vraiment aussi une structure intellectuelle? Été celui peut-être du 19e siècle, qui était celui d'une sainte que vous aimez beaucoup peut-être, Thérèse de l'Enfant Jésus.
Oui, mais qui était un équilibre extraordinaire, alors qu'elle était humainement déséquilibrée et névrosée. Et c'est là ce qui est bouleversant, c'est que sa sainteté, justement, puisque vous parlez d'elle, est passée par, justement, ses blessures affectives, ses carences, ses failles psychologiques. Elle est devenue sainte par là. Et ce qui prouve que tout cela, ce n'est pas un obstacle à la sainteté, mais c'est le terrain même où peut jouer la tendresse de Dieu et donc notre confiance.
C'est qu'au fond, je fais l'avocat du diable.
Oui, faites-le, enfin, allez-y.
Je suis payé pour, comme on dit. Oui. En fait, les saints ne sont pas des fous.
Les saints sont des fous.
Mais alors, est-ce que...
Enfin, ça dépend le mot. Je veux dire, ils sont fous de Dieu. Ils sont amoureux de Dieu. Mais c'est la plupart des temps, et des gens assez névrosés psychiquement. Et c'est ça ce qu'il y a de très beau, c'est que la sainteté n'a rien à voir avec la perfection morale. Être saint, c'est pas être quelqu'un, disons, de parfait au sens bon, qui a un bon tempérament, un bon caractère, il se met pas en colère, etc. Ce qui est simplement dû peut-être à son milieu familial, à son éducation, à son atavisme, à son hérédité. Il est comme ça, il est comme ça. Tandis que vous pouvez avoir un pauvre clochard, un alcoolique, etc. qui peut-être ne s'en sortira pas de toute sa vie, mais qui va poser des gestes d'une sorte de gratuité d'amour. Celui qui se prive d'un verre d'alcool, mais par pur amour de Dieu, en faisant un effort surhumain sur lui-même, même s'il rechute après, ça, c'est de l'éternité, c'est de la sainteté en bas. Alors que l'autre qui n'a aucun problème d'alcool ou de sexe, etc., bon, c'est peut-être un type bien, moralement, vertueux, mais qui n'a rien à voir avec un saint.
Vous employez le mot vertueux, moi j'aurais employé un mot qui est peut-être plus contemporain et qui est quand même une réalité qui nous préoccupe beaucoup, le mot d'équilibre psychologique. Est-ce que nous cherchons pas tous à être déséquilibrés?
Bien sûr.
Et finalement, l'évangile dont vous me parlez me semble finalement souvent versé dans un certain déséquilibre.
Mais je crois que l'équilibre spirituel ne coïncide pas forcément exclusivement avec l'équilibre psychologique. Parce qu'alors ce serait un drame. Ça veut dire que tous ceux qui ne peuvent jamais atteindre l'équilibre psychologique et qui sont de plus en plus nombreux, tous ces enfants, tous ces jeunes qui sont de plus en plus blessés par leur enfance, par des parents divorcés, par des parents qui n'ont jamais connu, qui ont été violés, etc. Donc ils sont traumatisés à vie. Ça veut dire que vous les excluez de la sainteté et du royaume. Alors qu'en fait, c'est eux qui ont le plus de chance de sainteté, de loin, qui ont le plus d'atouts. Parce que loin d'être des obstacles à la sainteté, ce sont des atouts pour la sainteté. Quand on consent à offrir sa faiblesse, sa fragilité, et qu'on s'aime tel qu'on l'est, et on ne peut le faire que quand on se sait aimé du Seigneur qui te prend tel que tu es.
Vous allez même beaucoup plus loin que ça dans « Baume et ton nom ».
Oui.
Vous allez jusqu'à dire, en citant quelqu'un, je ne me rappelle plus de qui cette citation, mais vous citez un auteur qui dit que finalement, ceux qui entrent dans le royaume des cieux sont ceux qui ont été blessés, écorchés, car ce n'est qu'en eux que Dieu peut reconnaître les frères de son Fils.
Et il se reconnaît lui-même comme blessé.
Qui est-ce qui a dit ça?
Mais je ne sais pas.
C'est vous qui citez ça.
Oui, mais je crois que... Enfin, c'est ce que je sens très fort. Mais je sens très fort que plus un être est blessé... plus il peut comprendre comment Dieu est blessé. Et donc, plus il y a une connivence intérieure avec Dieu. Et ils vivent la même chose, finalement. Et c'est là où peut se vivre un amour fou de Dieu, parce qu'on lui ressemble. On lui ressemble à travers ses blessures même. Je connais une fille qui avait dû se prostituer dès l'âge de 9 ans, donc qui était vraiment, pour vivre, donc qui était vraiment une de ces capotées de notre temps, qui a 15 ans, c'était une loque humaine, on lui en donnait 30, etc. Eh bien, elle est devenue vraiment une sainte. Elle est morte à 22 ans, et elle s'est consacrée à Dieu à 18 ans, parce qu'elle a rencontré à 16 ans une communauté dont je vous parlais, pleine d'amour. Mais jusqu'au bout, elle est restée marquée par les séquelles de son enfance, donc avec des crises terribles de désespoir, de colère. Elle était intenable dans sa communauté par moments. À d'autres moments, c'était... Eh bien, elle est devenue une sainte, comme ça, parce qu'elle s'est acceptée telle qu'elle est. Elle offrait tout. Elle aimait les plus blessés à travers ses propres blessures. Et là, ça donne une sorte d'espérance folle pour justement un monde qui va être de plus en plus déséquilibré. Mais il pourra trouver son équilibre intérieur. Et c'est là où je rejoins la question de l'Église orientale. Je ne parle pas de l'extrême-orient, ça c'est tout autre chose, mais des chrétiens d'Orient qui ont une vision beaucoup plus englobante de la personne humaine. Et c'est un des drames justement de l'extrême-orient, des philosophies et religions extrême-orientales, c'est qu'elles sont si facilement déstructurantes de la personnalité parce que ce sont des philosophies du vide où le sens même, la notion de personne est évacuée. Et l'homme occidental qui vit déjà dans un monde dépersonnalisant et anonyme où toutes les relations avec les autres et avec lui-même sont de plus en plus perturbées, où on est de plus en plus seul avec soi-même, il se jette comme par une sorte de phénomène de vertige, dans ce vide des religions extrême-orientales, où Dieu n'est plus quelqu'un avec qui tu peux avoir un rapport interpersonnel, mais où c'est le grand tout dans lequel tu te dissous, comme la poupée de sel qui se dissout dans l'océan. Et donc ta propre personnalité se dissout complètement, et la dernière relation intérieure qui pourrait te rester, qui serait celle que tu as avec Dieu, elle est elle-même sapée.
Je comprends vraiment mal ce que vous me dites là, parce qu'il me semble,
j'ai beaucoup
ça me semble
étudié
très dur.
Ce problème.
Oui, vous en parlez beaucoup.
J'ai moi-même beaucoup étudié le tibétisme, n'est-ce pas,
bouddhiste. J'ai fait tout un séminaire en Suisse là-dessus, dans tous les monastères tibétains et les centres hindous en Suisse. J'ai moi-même fait du yoga pendant des longues années. Donc, je suis vraiment payé pour savoir de quoi je parle là. Et je suis en train de travailler un livre en collaboration avec des médecins, des théologiens, sur ce problème-là. Et parce que je suis frappé de ce que, justement à une heure où l'Église a comme occulté sa propre grande tradition mystique et spirituelle que les jeunes attendent d'elle, on les renvoie vers ces mystiques extrême-orientales qui pénètrent certaines zones de l'Église, des religieux, des prêtres, comme par un microbe, j'oserais dire.
Je suis assez mal placé pour vous faire des objections, mais pensons quand même à tout un groupe de moines. Oui. Je pense à Thomas Merton, par exemple. Je pense aussi à Deschanel. Enfin,
combien de moines,
n'est-ce pas, sont tournés justement vers l'Orient.
Mais je pense que ce que pouvait faire un moine comme Thomas Merton, qui avait toute une expérience spirituelle forte, chrétienne à fond pendant des années et des années, donc tout un discernement spirituel, qui était quelqu'un capable de discerner, beaucoup ne sont pas capables de savoir ce qu'ils peuvent prendre, ce qu'ils ne peuvent pas prendre. Et justement, le drame des techniques des méditations, c'est qu'il est très difficile de les extraire de tout le contexte philosophique religieux où elles sont nées, dont elles sont le fruit, et elles sont un chemin de salut, elles se présentent comme des chemins de salut pour ceux qui vivent dans ces religions. C'est évident, et c'est pourquoi il faut un tel respect, une telle admiration pour ces grandes techniques. Mais je parle pour un chrétien où, comme me le disait un professeur de yoga qui était des années en Inde et qui a rencontré le Christ, il a dit, pour moi maintenant, je considère que ça relève de la prostitution spirituelle. Pour un chrétien, parce que il est comme arraché à la personne même de Jésus. Vous remarquez que ceux qui font du yoga zen pendant des années, peu à peu, le visage de Jésus, j'oserais dire, son visage très incarné, devient un peu flou, évanescent. Il va lentement, parce que le corps a un tout autre sens, n'est-ce pas ? Le corps devient quelque chose d'interchangeable, de secondaire, comme une enveloppe dans laquelle il est là. Mais alors, c'est toute la théorie de la réincarnation qui vous sape du dedans toute la foi chrétienne, l'incarnation, la résurrection. Que veut dire encore être sauvé, alors qu'on peut obtenir son salut, j'oserais dire, au bout d'une technique comme à la force du poignet? Qu'est-ce que ça veut dire être un tout petit enfant qui se reçoit de la tendresse de Dieu? Que veut dire le pardon, puisque la notion même de péché n'existe pas, puisque la souffrance est considérée comme une illusion? Vous voyez, il y a toute une sorte de perversion de la foi par l'intérieur.
Mais moi, je vais vous renvoyer la question. Et quand vous parlez du cœur, n'est-ce pas, de quoi parlez-vous? D'une espèce de réalité abstraite ou d'une réalité vraiment charnelle avec tout son poids?
Charnelle avec
et avec
son
sa beauté
poids,
aussi.
Avec sa beauté, bien sûr. Bien sûr. Et c'est pourquoi Dieu a voulu avoir et a toujours maintenant un cœur charnel. Celui que Marie lui a donné et qui est en train de battre à cette minute même en pleine trinité entre le Père et l'Esprit-Saint. Il a mon propre cœur.
Oui, mais toute la tradition chrétienne, et en particulier la tradition monastique, nous semble faire fi du corps. N'est-ce pas ? Nous semble l'oublier, le cœur, le rejeter, le cœur, qui est vu toujours comme plutôt l'instrument et le lieu du péché.
Eh bien, ça a été une énorme erreur. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut revenir à un équilibre total de la personne, où le corps, c'est moi. C'est pas mon âme à l'intérieur d'un corps. Nous grandissons ensemble. C'est moi-même. Et c'est ce qui fait, par exemple, tout l'aspect sacré et profond et bouleversant, par exemple, des relations sexuelles, parce que c'est pas quelque chose d'extérieur à toi, c'est ton âme qui est investie dans un acte sexuel. Ça touche l'âme du partenaire, son moi le plus profond, parce que tu n'es pas disloqué entre ton cœur profond d'un côté et ton corps. Le corps, c'est pas un objet, c'est pas une chose, c'est pas un instrument, c'est moi tout court. Et la preuve, c'est que le visage est absolument unique, parce que ton cœur est unique. Et c'est bouleversant quand on pense que depuis l'origine du monde, personne n'a eu exactement ton visage, parce que personne n'a eu exactement ton cœur. Et ton visage, tes yeux, ton regard, c'est le reflet de ton cœur profond. Et c'est pourquoi c'est impensable, la réincarnation, qu'on puisse avoir des vies successives, des corps successifs. C'est justement pour sauver le sens même du corps que l'Église est tellement... apparemment sévère pour les questions sexuelles, pour justement cette sorte d'allergie qui est là par rapport à l'extrême-orient, parce que c'est le corps qui est en question.
Le corps qui est absolument sacré, qui va ressusciter. Quand vous pensez que mes mains, mes yeux, mes pieds, tout mon être, tout mon corps va être un jour comme celui de Marie en ce moment, glorifié. C'est sidérant. Et c'est pourquoi j'aime tellement mon corps et pourquoi je le respecte tellement. Vous voyez ? J'ai vu au congrès de Lourdes des Croates de Yougoslavie, des jeunes Croates, qui vivent des espèces de communautés de vie, où ils font un pacte entre jeunes, c'est des jeunes, garçons et filles, où ils font une alliance, un pacte de respect mutuel de leur corps. Justement parce qu'ils ont un tel sens du corps, de la splendeur et du sacré du corps.
Et vous n'appelez pas ça un refus du corps ?
Au contraire ! C'est exactement le contraire. C'est parce que je sais ce pourquoi est fait mon corps et ce que signifie mon corps. Et que je ne suis qu'un avec mon corps, que c'est moi tout court. Et c'est ce qui en fait tout le prix et la splendeur et la beauté et la liberté. Parce que c'est un acte extraordinaire de liberté. Si je peux dire à une fille, non, je ne couche pas avec toi, je t'aime trop pour cela. Et je parle en dehors du mariage, là, bien sûr.
Oui, oui.
C'est une question de plénitude de l'amour et de liberté. Il y a un jeune qui dit ça, qui va contre-courant de tout ce théorisme ambiant qui cherche à le conditionner. On vit dans un monde où on est jusqu'au fond de l'inconscient, continuellement conditionné, et on demeure tout de même libre d'aimer de cette manière-là ou de ne pas aimer. Et c'est pourquoi j'aime tant les martyrs, tous ces confesseurs de la foi, ceux qui témoignent de la foi jusque dans les prisons, parce que ce sont les êtres les plus libres du monde, et qui disent on préfère être torturé plutôt que de renoncer à notre relation personnel avec celui qui est devenu notre unique amour. L'autre jour à Lourdes, je voyais un prêtre qui était l'unique représentant de son pays, de l'Est, et encore clandestinement, et il était recherché par la police secrète de son pays, et il devait faire très attention au congrès de Lourdes. Eh bien, il a été, après 5 ans à Auschwitz, il a été 9 ans dans les geôles communistes, un prêtre rayonnant de joie, et je lui ai demandé, qu'est-ce qui te frappe dans l'église en Occident, c'est la première fois qu'il vient en Occident de sa vie, et il m'a dit « Qu'est-ce que vos prêtres sont tristes, tant tristes ?» Et il m'a dit, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu dirais si tu avais le micro 2 minutes à la télé en France, qu'est-ce que tu dirais aux chrétiens ?» Et il dit « Dépêchez-vous, pendant qu'il est temps encore, de former une multitude de petites communautés d'amour, où vous vous teniez dans le respect l'un de l'autre, et où vous êtes des témoins de la liberté. » Et quand je parle de liberté, et je m'en l'Extrême-Orient, encore un petit épisode, quelques semaines avant de venir ici au Canada, je parlais à 150 chrétiens passés au bouddhisme. Bon, et je leur ai d'abord demandé pardon au nom de l'Église, en tant que prêtre, pour une Église qui n'avait pas répondu à leur soif spirituelle et qu'ils avaient comme forcé à aller chercher où ils pouvaient une vie intérieure. Et je leur ai demandé pardon pour tant de prêtres qui n'ont pas été avant tout des hommes de prière, les ouvrant à la prière. Et le lendemain, j'ai reçu un petit billet d'un protestant de 50 ans qui vit dans un monastère tibétain et qui me disait « Ce n'est pas la peine que tu ailles dans les prisons du Canada. Les prisons, elles sont chez nous. Et hier soir, tu es venu nous visiter dans notre prison. » Ça m'a bouleversé, ça m'a bouleversé. Et c'est pourquoi je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire quand je vois des petits-enfants qui sont littéralement écrasés par une société qui étouffe leur âme.
Alors changeons la société.
Oui.
Changeons la société. Et le véritable combat à mener, n'est-ce pas, ça devient un combat politique et un combat social.
Ce n'est pas en agissant uniquement sur les structures qui sont tellement lourdes que ce n'est pas quelques individus qui vont les changer, mais c'est en créant des petites cellules d'un monde nouveau. Et ce sont ces petites communautés dont je vous parle, où il n'y a plus de clivage, de classe, de génération, d'âge, de sexe, où vous avez des ouvriers, des médecins, des hommes d'affaires, etc., des jeunes, des enfants, des vieillards, des consacrés dans le célibat, des mariés, tout ça qui vivent ensemble, les béatitudes. Et quand vous avez 3000 personnes qui vivent comme ça dans une petite ville, c'est tout le... Même au niveau... C'est un impact au niveau économique, au niveau politique. Vous ne faites pas ne pas en tenir compte dans une petite ville.
Vous ne croyez pas que...
Et alors, il vaut mieux faire plutôt que de dire, que de protester.
ne sert à pas grand-chose.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais pourquoi...
Est efficace pas... concrètement dans les petites choses.
Oui. Mais alors, moi, je pense qu'il y a deux solutions, n'est-ce pas ? Ou bien on s'engage dans les structures et vraiment on les bouleverse, n'est-ce pas ? On les transforme, parce que les structures seront toujours là. Les structures de l'économie,
bien sûr,
la banque,
voilà.
Les seront toujours
exactement.
Là. Les structures de la cité seront toujours là.
Sauf cataclysme mondial.
Oui. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un danger, n'est-ce pas, que ces petites communautés dont vous parlez forment finalement des ghettos marginaux ?
Mais non. Parce que, d'abord, elles attirent énormément et elles vont en se multipliant. Et plus elles se multiplieront, plus ça finira par changer les structures de l'intérieur. Parce qu'on verra bien que les structures sont tellement vieilles qu'elles ne répondent plus, effectivement, à la demande concrète des gens. Vous voyez ? Et je crois que c'est là où on agit sur un contexte sociopolitique. Pas d'abord par engagement politique, mais par engagement évangélique. Vous voyez ? Évangélique. Et quand on voit les enfants dans ces communautés de vie, qui sont tellement heureux, paisibles, calmes, parce qu'on ne se fasse jamais, parce qu'il y a un rythme de vie paisible dans la prière. Eh bien, je vois, il y a des parents qui sont opposés à ces communautés, et quand ils voient ça, ils sont bouleversés, en voyant les fruits, ce que donne un enfant qui grandit dans cette atmosphère de paix, de grande douceur. C'est une nouvelle société qui est là, vous voyez ? Qu'il n'y ait plus une société de consommation, d'obsession, du rendement, du temps, etc. Où on prend son temps, les ingénieurs, les médecins qui sont là-dedans, ils travaillent à mi-temps, ils vivent beaucoup plus pauvrement, ils ont plus de Mercedes, ils ont des vieilles de chevaux, ils travaillent comme maçons, etc. Et ils sont heureux, ils n'ont plus leur yacht, plus leur résidence secondaire, et ils sont heureux, ils se lèvent au milieu de la nuit à 3 heures pour prier, ils jeûnent toute la journée du vendredi, parce que comme ils ne gagnent pas beaucoup d'argent et qu'ils veulent tout de même donner au tiers-monde, etc. Bon, ils jeûnent, c'est des gens qui vivent quelquefois du jour au lendemain, il n'y a pas de quoi payer les repas du lendemain, et puis le Seigneur leur donne au jour le jour, ils sont heureux, ils sont détachés, ils donnent des heures par jour à goûter la parole de Dieu, à louer le Seigneur, et ça c'est une nouvelle société qui est là, elle est là, elle est là, elle est au milieu de nous, il n'y a pas à rêver, 36 choses, et il suffit de développer celle-là, et je dirais la nationaliser, si j'ose dire, la faire passer une petite constellation, de petits noyaux minuscules.
Mais comment se fait-il que l'Évangile ait attendu si longtemps pour transformer le monde ?
D'abord, elle a beaucoup plus transformé qu'on ne pense. Et nous ne jouirions pas de tout ce qui se vit et se fait aujourd'hui au niveau social s'il n'y avait pas eu cette multitude de saints qui nous ont précédés, qui ont été les premiers à être bouleversés par la souffrance, à créer des hôpitaux, des écoles. Ils ont toujours été des chrétiens depuis 2000 ans, jusqu'à il y a un siècle.
Daniel Ange, je vous remercie.
Voilà.